sommes dans la deuxième épître de Timothée. Deuxième épître de Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Première chose qu'on peut remarquer ici, c'est que l'apôtre Paul, il était apôtre de Jésus-Christ, mais il savait bien pourquoi il était apôtre. C'est-à-dire qu'il savait bien qu'il avait un message, et là encore, il le résume, il dit, par la volonté du Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Donc, son ministère, son service, c'était la volonté du Dieu d'annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. En somme, c'était vraiment l'essentiel, je veux dire, et c'est encore l'essentiel, l'évangile du Fils de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la vie, c'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur le péché et sur la mort qui doit être annoncée. Et il fallait donc qu'il puisse avoir cette foi, qu'il puisse avoir cette autorité, qu'il ait une vraie communion avec le Seigneur. Frère Branham, je lisais des citations de Frère Branham au sujet de cette parole qu'on connaît, je ne m'appelle plus, c'est dans Ézéchiel 36, je crois. Ézéchiel 36, le Seigneur promet déjà, donc il y a longtemps, il dit, j'ôterai le cœur de pierre, je me donne un cœur de chair, je mettrai un esprit nouveau et je mettrai mon esprit. Alors, Frère Branham relève, il dit, les gens, quand ils ont une expérience, première expérience, que vraiment que le Seigneur y touche, il y en a, quand ils touchent, leur vie commence à changer, parce que quand ils lisent la parole, ils voient, et la parole est agissante, et ils voient que leur vie change. Ah, on dit, oh, ça y est, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais, il dit, mais non, il faut, les choses, il faut d'abord, comme c'est écrit, la première chose que le Seigneur, il a dit, c'est que j'ôterai le cœur de pierre, je donnerai un cœur nouveau. Le cœur, c'est là où habite notre âme, c'est la vraie personnalité, c'est la nature de notre âme, c'est la nature de notre vie. Notre âme, c'est la nature de notre vie. C'est donc là, à l'intérieur. Mais la première chose, il faut que le Seigneur, il nous donne un cœur nouveau. Alors, quand il y a le cœur nouveau, il peut mettre un esprit nouveau. Alors, à ce stade-là, à cette seconde expérience, alors de nouveau, il y en a qui tombent dans le panneau. Il dit, oh, ben voilà, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur l'a dit, dans ces passages-là, il a dit, je mettrai mon esprit en vous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est mon esprit. Donc, il y a d'abord un cœur nouveau, c'est-à-dire le lieu qui doit être habité, et qui doit être touché, c'est pas le domaine des sentiments, de l'esprit, du simple esprit de l'homme, c'est vraiment dans la profondeur, dans sa nature de son âme, c'est le cœur, vraiment le cœur. Et d'ailleurs, il relevait là dans ce passage, Frère Branham, il disait l'autre jour, j'ai vu qu'ils ont découvert que dans le cœur, il y a un petit endroit qui est vide. On disait toujours, oh, mais ça, c'est une... dire que c'est le cœur, que Dieu habite dans le cœur, c'est pas possible. Eh bien, ils ont découvert qu'il y a un endroit où il n'y a rien, rien, rien. C'est un endroit, n'est-ce pas justement là où doit habiter l'âme. Ils ne peuvent pas discerner ce que c'est, évidemment, ils ne peuvent pas pénétrer dans le domaine de l'âme, disons, heureusement que les hommes ne peuvent pas pénétrer là-dedans. Mais je veux dire, donc, le cœur, quand il parle d'un cœur nouveau, c'est bien un endroit bien précis, ça doit être vraiment le cœur, ça doit être le cœur, on sait très bien que si la pulsation du cœur ne se fait pas, eh ben le corps, il meurt, tout le corps meurt, s'il y a pas la, si le sang n'est pas répandu. Et c'est du cœur que sortent déjà les paroles, les questions du cœur que viennent les paroles, enfin, le témoignage. D'autres passages dans le chapitre 10 des Romains, ils nous montrent que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que vous serez sauvés. Il faut croire dans le cœur que Dieu l'a ressuscité. Si vous croyez dans votre cœur, dans votre âme, dans le lieu profond de votre être, si vous croyez que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, qu'il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, que la mort n'a pas pu l'obtenir, si vous croyez ça dans votre cœur, et si vous confessez de la bouche Jésus comme Seigneur, alors vous serez sauvés. Donc il y a, d'abord il faut commencer par le commencement, c'est que le cœur, il devienne une place où Dieu puisse habiter par notre foi, par notre témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Et alors, finalement, quand il y a le nouveau cœur, un nouvel esprit, alors l'Esprit de Dieu peut venir. Et alors, si vraiment, je relève ces passages que j'ai lus dernièrement, parce que je pense que c'est très bien de savoir, mais quand c'est le Saint-Esprit qui habite, eh bien, on ne peut que rendre témoignage de Jésus-Christ. Et ça correspond à l'Écriture qui dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Maintenant, quand quelqu'un il a une onction de l'Esprit, oui, il a fait une expérience, il va peut-être parler de religion, il va peut-être parler de ceci, de cela, mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il va seulement glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là, dans cette mesure-là, que Dieu veut faire arriver son épouse. Puisque son épouse, elle doit glorifier sa raison d'être. Bon, si je peux dire, si j'avais une différence entre mon corps et ma tête, quand même, mon corps, il serait d'accord de glorifier le tout, de glorifier la tête qui conduit le corps. Ainsi, si nous sommes vraiment du corps du Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'esprit de celui qui est la tête, on va toujours glorifier la tête, on va toujours mettre en avant ce que dit le Seigneur. On ne va pas commencer à se glorifier d'un message particulier, non, on va glorifier celui qui est la parole. Amen. Amen. Donc, c'est important, c'est vrai, qu'on puisse arriver à une consécration totale, pas seulement partielle. C'est bien quand on fait déjà une expérience, mais il faut poursuivre dans l'intention finale, parce que l'intention finale, c'est écrit ici. C'est là, il est dit, la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. La vie qui est en Jésus-Christ. La vie du croyant qui est en Jésus-Christ. Il s'agit de glorifier, c'est bien, il y a des promesses de vie pour celui qui est en Jésus-Christ. Seulement si on pense au passage, quand il dit « celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi », ça veut dire quoi? Mais il faut vraiment qu'il y ait une foi, une consécration, qu'on ait l'Esprit de Christ en nous pour glorifier le Seigneur afin qu'il puisse se manifester, et parce qu'il ne donnera pas sa gloire au vieil homme. Il ne peut pas donner sa gloire à l'homme qui n'accepte pas la pleine autorité de l'Esprit de Dieu. Il faut donc arriver à ce troisième point, si je peux dire. Pas seulement avoir une visitation de l'Esprit de Dieu dans son cœur et avoir des pensées nouvelles, n'est-ce pas, et voir les choses différemment, c'est déjà bien, mais pas seulement avoir une onction de l'Esprit, mais il faut que ce soit le Saint-Esprit, alors parce qu'évidemment que Dieu est obligé de commencer par faire le nettoyage de la maison, ça c'est compréhensible. Et il y en a beaucoup qui attendent le baptême du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ne laissent pas faire le Seigneur, le travail que le Seigneur veut faire. Premièrement, c'est nettoyer notre cœur, notre habitation, le lieu où il veut venir habiter pour agir, pour prolonger ses jours. On connaît tout ce passage, Ésaïe 53, 10, qu'il va prolonger ses jours. Donc c'est une parole importante qui montre que le Seigneur, cet évangile que nous avons à prêcher, c'est la prolongation des jours de Jésus-Christ. C'est la vie qui était en Jésus-Christ qui doit être encore manifestée avec les mêmes œuvres, avec le même témoignage, la même compassion, la miséricorde et aussi les guérisons, c'est sûr, et l'autorité, parce que souvent, on manque d'autorité au moment où on devrait dire au nom de Jésus, sois libre, sois guéri, voilà. Comment on se dégonfle. Voilà, on n'arrive pas jusqu'à ce moment plein d'autorité. Il n'y a que Jésus, par son esprit, habitant pleinement en nous, qui peut le faire dans toute la simplicité. Et comme l'apôtre Paul, on voit bien l'apôtre Pierre, que quand il a dit « je n'ai ni or ni argent », quand il a dit « je n'ai ni or ni argent », je suis sûr qu'il ne savait pas ce qu'il allait dire après. Mais il dit « je n'ai ni or ni argent ». Il aurait pu continuer et puis dire « oh, je suis bien malheureux, tu vois, j'aimerais bien t'aider, mais je ne peux pas t'aider. Parce que je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Toi, tu veux de l'argent, tu veux quelque chose dans ta crousie. » Il aurait pu s'arrêter là. Un homme charnel, c'est ce qu'il aurait dit, tu sais. Même en cherchant dans mes poches, je ne trouve pas. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose. Il a réalisé là, sur le moment présent, qu'il avait quelque chose qu'il pouvait donner. Et ce quelque chose, c'était la guérison qui était en Jésus-Christ. Ça lui était inspiré par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui était en lui. C'est pas l'Esprit nouveau de Pierre qui nous a inspiré cela, non. C'était l'Esprit de Christ en lui. Je n'ai rien, mais j'ai quelque chose. Ah, c'est quelque chose. S'il n'a rien, lui, il dit, moi, je n'ai rien. Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Et quand il peut dire, mais ce que j'ai, je vais te le donner. Et c'est la guérison. Donc, cela représente que Dieu veut conduire son épouse à manifester vraiment la même vie, puisque l'apôtre Paul était témoin de cela. Si je reviens là-dessus encore une fois, il dit, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. La vie qui est en Jésus-Christ. La promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Faire connaître la promesse que Dieu a promis, elle prêchait avec assurance jusqu'à ce qu'il y en a qui le saisissent. Peut-être pas au premier coup quand l'apôtre Paul a parlé de la promesse de la vie qui était en Jésus-Christ, qu'il aurait dit que Jésus avait dit que s'il croyait en lui, il ferait les mêmes œuvres. Il dit, oh, mais moi, bon. Mais il a continué, il a persévéré. Et je pense que pour nous, c'est aussi un exemple que nous, on doit persévérer à vouloir prêcher le plein évangile, l'évangile du Fils de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, et de chercher à le connaître mieux et à le présenter mieux, à être dans une communion réelle avec lui, que par le Saint-Esprit, il puisse vraiment venir habiter en nous et faire de nous de ces témoins qui peuvent annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est cela, et ce qu'il y a de précieux dans le ministère de l'apôtre Paul, c'est qu'il savait bien qu'il était venu pour annoncer la vie éternelle. Il était venu pour donner à ceux qui allaient croire, il allait leur donner cette vie. Et nous, nous devons avoir l'assurance qu'on peut donner, on peut secourir, on peut aider. Amen. Seulement, il faut qu'on arrive à cette foi-là, cette communion avec le Seigneur. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, mon enfant bien-aimé. Donc, il est considéré vraiment comme un qui avait la même nature. Mon enfant, il pense mon enfant dans le sens, mon enfant dans la foi. Mon enfant de la foi en Jésus-Christ, mon enfant comme disciple de Jésus-Christ. Et alors, il invoque les trois choses. Ici, il dit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. Il y a un homme de Dieu qui a dit que la grâce, c'est pour tout, c'est ce qui est nécessaire à tous les services. Que ce soit un apôtre, que ce soit un évangéliste, n'importe quel ministère, il faut la grâce. Tout service à l'égard de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour l'exercer. Et puis, la miséricorde, c'est aussi pour tous à cause des défaillances. Les défaillances que les uns et les autres peuvent subir dans leur vie, dans leur marche, ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Et pour finir, la paix, et c'est nécessaire, la paix dans toutes les circonstances. La paix doit être en nous, même au milieu de la tempête. On doit être dans cette paix, c'est un don. La grâce, la miséricorde et la paix, ce sont des vertus qui viennent de Dieu. Parce que lui, il est plein de grâce, et sinon, il ne serait pas venu en Jésus-Christ. Il est plein de miséricorde, c'est parce qu'il a vu la détresse des âmes dans l'esclavage de Satan. Et il a eu compassion, il est venu pour les délivrer de cet esclavage. Et puis la paix, c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Parce que s'il n'y a pas de paix, c'est comme j'expliquais un temps, je me rappelle, quand il y avait la guerre dans les pays, ce qui arrivait, c'est que les champs étaient détruits, les routes étaient détruites, les communications, les moyens de communication étaient détruits. Et quand la paix venait, les premières choses qu'on réparait, c'était les voies de communication. Il fallait qu'on refasse les routes pour aller dans les champs et pour aller d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre. Donc, quand il y a la paix, alors on peut reconstruire. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas reconstruire les choses. Donc, il faut c'est ces trois choses-là qui sont invoquées, que l'apôtre Paul réclame pour ce bien-aimé jeune homme qu'il considérait comme son fils, et c'est ce qu'il demande pour lui, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu en tant que Père, c'est-à-dire Dieu qui est le Créateur des cieux et de la terre, non seulement c'est lui qui doit pouvoir te donner cela, mais Jésus en tant qu'exécutant, puisque c'est lui qui a accompli le salut. C'est Dieu qui nous a sauvés. C'est Dieu qui est notre sauveur. Mais c'est en Jésus-Christ qu'il a accompli le salut. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'il a pris nos péchés pour nous en délivrer. Et c'est parce qu'il a pris nos péchés sur lui qu'il est mort. Et parce qu'il est mort à cause de la volonté de Dieu, il a fait la volonté de Dieu, la mort n'a pas pu le garder et elle a été vaincue et la résurrection a été manifestée pour la vie éternelle. Amen. Donc, nous voyons là, les deux sont associés, il les invoque, ces trois bénédictions, il les invoque qu'elles soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Évidemment, il priait nuit et jour, et chaque fois qu'il priait, il se rappelait Timothée, il se rappelait tel et tel, peut-être pas seulement Timothée, mais certainement, il avait sur le cœur Timothée, et sur le cœur celui qui travaillait aussi avec lui dans le même royaume, pour le même but, pour apporter les promesses de Dieu, promesses de vie, afin que les âmes puissent entrer dans cette vie qui nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je le sers, ce Dieu-là, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant de te voir afin d'être rempli de joie. Il faut dire que c'était vraiment son enfant, parce qu'il avait élevé dans la foi, mais un jour, il était là quand il écrit, il est à Rome. Je crois bien que même c'est quelques années avant qu'on exécute, ici d'après la chronologie, il semble que là, l'épître à Timothée, c'est à la fin de sa vie qu'il a écrit la deuxième épître. Donc, il avait été séparé subitement quand il était arrêté brusquement, brutalement, on l'a arrêté. Alors, il a plus pu s'occuper même de Timothée, mais il a continué de penser à lui et de le soutenir, et Timothée lui-même, il a continué dans le service. Donc, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc nous voyons, c'était des familles qui étaient croyantes, on peut dire, génération en génération, ils ont eu des croyances, ça ne veut pas dire que tous, mais peut-être que toute ta famille était croyante, même parce que Dieu voudrait que la famille puisse suivre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il faut que, puisqu'il dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille, il faut que je croie. Si je crois comme il faut, la famille va être sauvée. C'est ça. Hein? Mais ça serait la volonté de Dieu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on voit que Paul, il connaissait sa grand-mère et puis sa mère, c'était déjà des croyants, et le fils aussi, Timothée avait suivi. Gardant le souvenir de ta foi sincère et qui est en toi, foi sincère qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, il avait reçu, par l'imposition des mains de Paul, il avait reçu un certain don. Et c'était comme un feu brûlant qui était en lui, qui est un don, je ne sais pas, pour le prédicateur, je ne sais pas, c'est un don qui était en lui, qui brûlait, mais en somme, il semble que ça s'était un petit peu, comment dire, éteint, avait diminué. Et alors, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Donc, c'est quand même une image vraiment merveilleuse quand on n'a pas la, ranimer la flamme. Ça veut dire qu'il y a un feu, et alors, qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il continue de brûler? Il faut apporter du matériel. Il faut apporter du matériel, apporter des bûches pour que la flamme ne s'éteigne pas. Parce que si on n'ajoute pas de matériel, eh bien, le feu va s'éteindre. Et nous savons bien que la flamme peut grandir en nous si on apporte des paroles de l'Écriture que Dieu nous révèle. Si Dieu nous révèle sa parole, quand on médite la parole, qu'il nous révèle certaines paroles, ça nous ranime, hein, ça nous relève, ça nous redonne du courage. Donc, il fallait qu'il recherche à être ranimé. Donc, on cherche, c'est aussi utile pour nous. On a besoin de rechercher à être vraiment ranimé, à dépasser même ce qu'on n'a jamais, on n'a peut-être encore jamais vécu, mais il faut tâcher de l'atteindre. Amen, puisque au temps de la fin, il y a une épouse sans tache ni ride, et il faut qu'elle soit manifestée. Même si elle n'a jamais été manifestée jusqu'à maintenant, et pourtant, c'est écrit, et il va se présenter une épouse dans cette position-là. Ainsi, il y a une part qu'il demande à faire à Timothée. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit donc que Dieu nous a donné, donc le Saint-Esprit, c'est comme j'ai expliqué, il faut premièrement une expérience, il faut que cet évangile touche notre cœur, et c'est la mort du vieil homme, c'est notre identification, notre foi, dans notre identification avec la mort de Jésus-Christ, quand on réalise que c'est pour nous qu'il l'a fait, et que maintenant, bien, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui a dû quitter la terre à cause de notre péché, pour expier notre péché, et que si maintenant nous sommes dans la foi, eh bien, nous vivons pour celui qui nous a donné cette foi, celui qui est notre raison de foi. Ça, c'est donc... Il faut que le cœur soit nouveau. Il y a une direction nouvelle. Vraiment, c'est pas un rafistolage, comme on dit, mais c'est vraiment un changement. Et puis, ensuite, il y a l'esprit. L'esprit, Dieu nous donne un esprit nouveau. Et finalement, c'est le Saint-Esprit lui-même qui peut venir pour manifester le règne. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il va manifester le règne. En somme, les disciples qui ont marché avec le Seigneur Jésus, ils ont marché 3 ans en tout cas, ils ont marché avec le Seigneur, ils ont appris la manière de faire du Seigneur, ils étaient certainement pleinement d'accord, à part Judas, qui avait gardé sa vieille convoitise là, convoitise des richesses qui était là dans son cœur, mais les autres, ils avaient fait une expérience, seulement, ils avaient besoin d'aller plus en avant dans leur expérience, il fallait qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, alors ils ont été témoins. Comme je l'ai déjà dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et c'est la volonté de Dieu que nous aussi, au temps de la fin, nous soyons des témoins de Jésus-Christ et on ne peut pas passer par un autre chemin. Il faut qu'on passe par cette expérience-là parce que c'est le chemin qui était ouvert. Il faut qu'on passe par là. Sinon, on n'arrive pas à être les témoins que Dieu voudrait avoir. Donc, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Ma traduction dit « ne nous rend pas timides ». Mais il dit au contraire, l'autre traduction dit « mais nous avons un esprit de force, de sagesse et d'amour hein? ». Comment est-ce qu'il dit? Tu as Darby, toi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit?
Donc, Darby nous a pas donné un esprit de crainte,
oui.
De puissance et d'amour et de conseil.
Voilà, puissance, amour, conseil. Simple, les traductions là qui sont un petit peu différentes les unes des autres, mais c'est clair. L'esprit de Dieu que Dieu nous a donné, c'est pas un esprit qui va nous rendre timides. Là ici, il est passé de timidité. L'esprit, quand le Saint-Esprit est là, c'est un esprit qui dit les choses avec sagesse, certainement, mais pas avec timidité. Il dit les choses simplement, mais avec autorité. Il est persuadé, il a l'assurance des choses qui rendent témoignage au sujet du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est tellement important que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui nous inspire dans notre témoignage. Parce que là, c'est qu'une question de témoignage. Hein? C'est vrai. Pas seulement pour la prédication, mais pour être témoin vis-à-vis des autres. Parce que le Seigneur, quand il a dit, vous serez une puissance, le Saint-Esprit sur nous, sur vous, il n'a pas envoyé seulement à ceux qui avaient les ministères. Ils étaient 120. Ou bien est-ce qu'il n'y avait que les 12? Mais non, c'est pas seulement les 12. Le Saint-Esprit est venu parce que tous, les femmes aussi qui étaient là, elles devaient être remplies du Saint-Esprit pour être témoins là où le Seigneur les avait placées, dans le service qu'elles avaient à rendre, le témoignage qu'elles avaient à rendre. Et c'est toujours la même chose encore aujourd'hui. Donc, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Donc, verset 8, n'ayez donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. C'est bien clair, c'est ce que je dis dès le début. L'importance, c'est que le témoignage soit rendu au Seigneur Jésus-Christ. Et après, l'apôtre Paul, il se joint aussi. Je veux dire, il se considère comme, il faut aussi qu'on puisse le croire, hein? Parce qu'il a un témoignage. Le témoignage qu'il a, c'est que il était un persécuteur de l'Église. Et s'il était maintenant un qui propage la bonne nouvelle, c'est un miracle. D'ailleurs, au commencement, les autres ne voulaient pas croire qu'il était vraiment, il avait fait une expérience, ne comprenait pas, ne croyait pas, alors qu'il les avait poursuivis jusqu'à l'étranger. Il ne s'est pas contenté du pays d'Israël, non, il voulait venir à Damas même pour emmener prisonniers ceux qui croyaient en Jésus, et il l'a fait. Il a enfermé beaucoup en prison, et il a donné sa voix pour les faire mourir. Donc, il savait très bien, il avait un témoignage. Donc, n'ayez point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Qui nous a sauvés et nous a donné une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Oui, donc voilà ces dernières paroles sur lesquelles je vais encore dire quelques mots. mais le temps passe. Alors, il dit, donc souffre, donc point honte du témoignage à notre Seigneur Jésus, Seigneur, ni de moi sans prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Donc, c'est qui est important. J'insiste là-dessus parce que c'est biblique. Je vous dis, c'est pas dit, souffre pour le message. Il n'a pas dit, il faut souffrir pour le message que tu as. Il aurait pu l'employer, ça. Non, mais il précise quel est le message. C'est l'évangile. La bonne nouvelle du royaume, de la victoire sur le péché, sur la mort, sur Satan, dans la personne de Jésus-Christ. Dans la personne, à la suite, avec la personne de Jésus-Christ. Tu peux pas séparer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui est vivant. Et qui va me donner la victoire en face de l'ennemi qui vient avec les menaces de la mort, si je n'ai pas une communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais si j'ai sa présence, si j'ai sa communion, eh bien, je rends témoignage, même s'il me menace de mort, je dis de toute façon, j'ai la vie éternelle, et puis le Seigneur ne va pas me laisser dans la mort, tu peux me faire mourir physiquement, mais j'ai cette vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, comment est-ce qu'il dit? Donc, souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est là la puissance de Dieu qui doit être, qui doit régner, qui doit, on peut dire, chapeauter le tout, chapeauter le cœur, le nouvel homme, il a chapeauté l'esprit qui nous a été donné. Mon esprit, c'est un autre esprit. Ce que frère Branham disait aussi, très intéressant, il dit, mais de toute façon, nous, on est né avec un esprit méchant. On est né pécheur. C'est un esprit méchant. C'est un esprit d'incrédulité. Et on ne peut pas marcher avec Dieu dans cet esprit-là. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il faut que notre esprit soit changé. Il faut que notre esprit change et qu'il croit. Et qu'il comprenne qu'il est libéré, qu'il est purifié, et qu'il peut croire, qu'il doit croire, et qu'il doit prospérer. Alors, je peux avoir communion avec Dieu. C'est pour ça que beaucoup, ils n'ont pas changé d'esprit, alors ils voudraient être baptisés du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas accepté d'avoir un nouvel esprit. Il faut accepter que Dieu mette en moi un nouvel esprit. Et puis le Saint-Esprit viendra par-dessus, parce qu'il vient pour collaborer, pour marcher avec nous. Parce que la volonté, l'appel de Jésus-Christ, c'était « prenez mon joug, apprenez de moi ». C'était « venez, venez avec moi, suivez-moi, nous allons marcher ensemble ». C'est ça l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation. C'est une vocation, vocation de fils de Dieu. C'est ça notre vocation, être fils de Dieu. Plus des pécheurs, plus des fils de l'adversaire, mais des fils de Dieu. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort en impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. Alors vraiment, on peut voir que les épîtres de Paul à Timothée, ce sont des épîtres vraiment qui intercèdent pour l'Évangile, pour que l'Évangile soit apporté dans sa pureté et pour que le peuple il soit vraiment attaché au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est bien possible que, comme il y en a qui disent, c'est juste quelques années avant d'être repris par le Seigneur que l'apôtre Paul s'est senti pressé d'insister pour ceux qui... Il avait le témoignage que ce Timothée, il était vraiment saisi par l'Évangile et il voulait que lui, il puisse grandir encore et qu'il puisse vraiment, lui, s'il allait partir, eh bien, qu'il soit un gardien de cet Évangile qu'il lui avait transmis. Et il faut que cet Évangile, effectivement, il soit prêché. Avant l'enlèvement de l'épouse, il doit être prêché. Quand l'épouse est enlevée, il n'y aura plus d'évangile du tout. Il n'y aura plus que des religions, tant que vous voulez, mais l'évangile n'existera plus. Le dernier évangile, c'est l'épouse qui va apporter l'évangile, qui va apporter ce plein évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever et nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur.